un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui ? Hey, êtes-vous prêt pour un nouvel épisode captivant ? Avant cela, je suis ravi de vous annoncer le partenariat avec Gobayava, expert de la mobilité internationale et de l'assurance voyage. À tous les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouvelles destinations, Gobayava est là pour vous proposer les meilleures assurances voyage. Je les remercie de m'accompagner pour cette nouvelle saison et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour un petit cadeau. Maintenant, place à l'épisode. Allez, on est parti là, je suis à fond pour démarrer cette nouvelle saison parce que j'accueille Alex Viseo. Salut Alex, comment tu vas ?
Salut Jérém, ça va bien et toi ? Oh, ravi, merci de m'inviter.
Quelle voix douce.
Et suave, bien suave. Bien sûr. Tu sais, maintenant je suis un adulte, hein, ça va, le petit teenager qui voyage à travers le monde, voilà.
Bon, mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir, je suis ravi, ça fait longtemps que je t'attends. Et j'ai enfin cette opportunité. Ça fait plaisir, même si t'es pas tout proche de moi, mais le cœur y est.
Je dois saluer ta patience parce que ça doit faire au moins un an que je repousse. J'ai pas le temps. Je ne sais pas quand je vais être, si je vais avoir une bonne connexion. Et moi, ça me fait flipper de mettre un impératif de, tu sais, d'être là avec une bonne connexion, un truc dans mon agenda à 2-3 mois, 1 mois à l'avance, puisque j'aime pas. Ça me, comme si genre, ah, je suis obligé. Donc à chaque fois je disais relance-moi telle date, relance-moi, et tu l'as fait, et je t'avais pas menti, j'étais effectivement disponible, je suis à Medellin en Colombie et je suis ravi d'être là aujourd'hui.
Exactement, merci beaucoup. Un trek de survie dans la jungle amazonienne, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que t'as voulu, c'est ce que tu as souhaité faire il y a quoi, il y a 2 mois, c'est ça à peu près?
Tout à fait, pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. C'est le genre de cadeau que je m'offre pour mes 40 ans. Je suis pas le genre de mec à m'acheter une Rolex ou une bagnole ou des jolies fringues. Moi, je dis au contraire. Bon, non, allez, jungle amazonienne.
Impeccable. Un trek de survie avec que dalle.
Ouais, vraiment là, c'était encore, donc j'en ai déjà fait un en 2011, donc c'était il y a 12 ans. C'était en jungle amazonienne, mais partie bolivienne. Là, c'est la partie colombienne. Et là, je suis parti avec, c'est-à-dire un pantalon à poche, une chemise, une machette, un hameçon, une lampe torche. En vrai, on a une lampe torche. Et voilà. Et on n'avait pas de, s'il y avait 400 grammes de farine de manioc par personne et 100 grammes de sel. Et on n'avait pas de bâche en plastique pour nous couvrir ou au sol. On dormait parce que du coup il y avait moi, un pote et 3 guides, et pour nous faire survivre, on veut dire, et on dormait à même le sol, donc c'est-à-dire on prenait des feuilles, on les mettait sur le sol et on dormait. Des fois on avait le temps de construire un abri, des fois pas, et il nous arrivait des trucs assez ouf d'ailleurs, mais j'en reparlerai un peu plus tard par rapport à ça, mais voilà, c'était vraiment, et moi en plus j'étais vraiment, je voulais me remettre dans les, entre guillemets, les pires conditions, parce que j'avais vraiment une mission personnelle et une quête personnelle, et du coup les autres les avaient pris, genre tu vois, genre un sac. J'avais même pas de sac à dos, hein. J'avais rien, j'avais juste ma petite sacoche pour mettre la caméra, et en fait j'avais des potes qui avaient pris, même les guides, hein, ils avaient pris des vêtements secs pour passer la nuit, tu vois. Moi j'avais rien.
T'avais rien.
Rien. J'avais air.
Bon, écoute, je pense que t'as bien lancé le sujet, c'est incroyable. C'est le fait de t'avoir, je ne sais pas. J'ai oublié la première question que je pose tout le temps. Mais est-ce que Alex, s'il te plaît, tu peux te présenter à mes
visiteurs ? Bien sûr. Moi, c'est Alex Viseo et j'ai eu une vie de métro boulot dodo jusqu'au jour où j'avais un très bon job, très bien payé, mais jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas ma life. C'était pas la recette de mon bonheur, celle qu'on m'avait vendue depuis que j'étais tout petit. Du coup, j'ai décidé de claquer ma dème pour voir à quoi ressemble la vie quand on s'écoute, quand on écoute ses tripes, son instinct, ses envies. Et je suis parti faire le tour du monde, qui était mon plus grand rêve. Et j'ai voulu, pendant ce tour du monde, commencer à partager cette passion du voyage. Donc là, je te parle de 2011, hein, parce que je ne suis pas tout jeune, vu que j'ai fêté mes 40 ans. Et en vrai, j'ai adoré ça. Ça a été la plus belle année de ma vie. Une année où t'as pas de stress, pas de rendu, pas d'impératif, personne n'attend rien de toi. ça a un impact sur ton corps et sur ton mental qui est assez phénoménal, sans même, je te parle même pas de tous les bénéfices, de toutes les leçons que tu as, hein, que tu absorbes au fur et à mesure de ton chemin. J'ai tellement aimé ça que j'ai voulu en faire un job, sauf qu'à l'époque, bon, il y avait que Yann Arthus Bertrand ou Nicolas Hulot qui pouvaient le faire, hein, c'était à la télé sur TF1. Et au bout de 2-3 ans, de continuer de juste créer du contenu et par passion, de vouloir transmettre cette passion du voyage, bah, j'étais influenceur voyage. J'étais le premier en France à être influenceur voyage. Et je le suis resté dans le top, on va dire, pendant 10 ans, jusqu'à il y a 2 ans, où peu importe la magnifique chose que tu fais dans la vie, même si c'est le plus beau job du monde, ou même le job dont t'as rêvé quand même il n'existait pas, quand tu choisis un chemin qui est justement sortir du métro boulot dodo, tu choisis en fait de vivre une vie d'évolution. Donc, c'est-à-dire la situation idéale à un instant T, si tu te démerdes bien et si tu fais bien ton job, elle ne doit plus l'être quelques temps après, parce que t'as évolué, t'as besoin de nouveaux challenges, t'as besoin de grandir, t'as besoin de te nourrir. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que justement je transmets ce que j'ai appris, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient des super projets, des skills, des compétences, mais qui savaient pas forcément les promouvoir. Et ça fait 2 ans que bah, maintenant j'ai un business en ligne où je vends des formations qui permettent bah, de savoir raconter son histoire, de savoir construire une communauté autour de soi et surtout de savoir monétiser sa passion en un business qui te fait vivre, en attirant les bons clients, en créant du contenu sur les réseaux sociaux, en faisant aussi de la ce qu'on appelle du personal branding. Donc à chaque fois j'ai une métaphore qui me vient, mais à chaque fois que je la dis, je me dis c'est totalement en manque d'humilité. Mais en fait c'est parce que je trouve que ça représente bien ce chemin, c'est-à-dire je prends Didier Deschamps pour pas prendre Zidane, parce que là on est vraiment sur un autre level. Mais après avoir été Didier Deschamps, tu vois, t'as été champion du monde, etc. Ben en fait t'es entraîneur, parce qu'en fait quand tu fais toi les choses, tu peux avoir un impact de fou et tu peux faire des choses incroyables. Mais quand t'es coach ou quand tu transmets, tu peux avoir 10 fois, 100 fois l'impact que t'as eu, parce que tu transmets ça à tellement de personnes qui ont tellement finalement plus de talent, d'envie que toi, et c'est ça qui est beau. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'adore faire, c'est je transmets ce que j'ai appris pour qu'il y ait des gens qui reviennent vers moi et qui me disent, j'ai fait ça, j'ai réalisé tel projet, je fais tel voyage, et je trouve ça incroyable. Et c'est comme ça que je me nourris aujourd'hui, techniquement et mentalement. C'est en ouais. transmettant tout ce que j'ai appris sur la création de contenu et les réseaux sociaux.
Génial, génial. Je garde en tête la métaphore, elle est parfaite.
Manque un peu d'humilité, mais j'aime bien ce côté, tu vois, genre pour qu'on comprenne.
Très bien, ça colle parfaitement avec ton personnage. Je voudrais vraiment qu'on attaque cette expérience. Tu voulais fêter tes 40 ans d'une manière un peu atypique. Comment t'es venu cette idée de dire, tiens, j'ai envie de faire un trek de survie dans la jungle amazonienne?
Alors, la première fois, c'était un peu par hasard, parce que j'allais juste faire un trek dans la jungle, et en fait, je rentre dans une agence, et ils me disent, mais on a cette nouvelle option. Survie. J'ai fait waouh. Et comme tout garçon, alors je sais qu'on est en 2023, on peut être binaire, non binaire, tertiaire et tout ce que tu veux, mais en petit garçon, un peu typique, un peu stéréotypé, j'ai envie de dire, et qui a vu un peu Man versus Wild en allant dans sa vie, tu rêves d'arriver à survivre dans la jungle. Voilà. et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est le truc que je veux faire. Pour moi, c'était Disneyland. Et vu que ça a été une des plus extraordinaires expériences de ma vie, ben en fait, quand ça arrivait, mes 40 ans, les 2 dernières années, ça a été assez compliqué pour moi, à titre personnel. C'est la première fois que je faisais face de toute ma vie à des moments où je me sentais triste, je me sentais seul, j'étais fatigué, mon âme était fatiguée. Et en 2023, tout s'est réaligné, tout allait beaucoup mieux, et je me suis dit, putain, pour mes 40 ans, j'ai envie de me servir de cette date pilier un peu symbolique pour ancrer ce nouveau réalignement et de retrouver vraiment l'état d'esprit que j'avais pu avoir dans ma vie, où je me sentais exalté, bien dans ma peau. Et je me suis posé la question, je me suis dit, putain, mais c'était quand la dernière fois où je me suis senti vraiment le mieux dans ma peau, le plus aligné, et même ce que j'appelle bulletproof, tu vois. Genre, quand t'es bulletproof, c'est pas que t'encaisses, c'est que les choses, les problèmes, les situations, elles glissent sur toi, en fait. Parce que tu les vois pas comme des problèmes, et du coup, elles t'affectent pas, si ce n'est qu'elles te font rire, et tu les vois comme des possibilités de grandir. Et depuis que j'ai fait de l'hypnothérapie, je sais que la première image qui te vient en tête quand tu te poses une question, c'est la bonne réponse. L'image qui m'est venue, c'est quand j'étais dans ce fucking putain de trek de survie, tu vois. Et là, je capte pas. Je lui dis, attends, pourquoi? Pourquoi le moment où je demande à mon cerveau de me dire là où j'étais le mieux dans ma peau, c'était le moment où extérieurement c'était les pires conditions possibles. Et je me suis dit, il faut que j'aille comprendre ça. Il faut que j'aille retrouver ça. Il faut que j'aille comprendre psychologiquement ce que j'étais, comment j'étais et pourquoi j'avais réussi à le retrouver. Et voilà, c'est la raison qui m'a fait repartir un peu à l'exploration de moi-même, à la recherche de moi-même pour ce trek de survie. V2.
V2, exactement. Et ben, du coup, j'avais une question, mais je vais la garder pour le final, finalement. Je voudrais qu'on attaque un peu sur ces débuts-là. Tu disais qu'il y avait plusieurs guides, tu étais avec des potes, eux peut-être un peu plus équipés que toi. Comment ça se passe les débuts quand tu arrives dans un lieu hostile? Je pense qu'on peut, le mot est plutôt bien, qui t'écrit bien. Est-ce que tu t'étais déjà préparé toi en amont? Est-ce que, alors t'avais déjà fait une expérience, mais ça faisait déjà quelques années. Est-ce que c'est revenu tes réflexes, tout ça, tout ce qu'il faut savoir, tu vois, être bien préparé? Ouais, est-ce que
pas du tout. En plus, j'ai embarqué un pote. Je lui dis ça te dit, mais il est grave. Parce que lui, là, en plus, il avait l'âge que j'étais un peu plus jeune. Que il avait 26, donc il a 26, et donc il avait à peu près l'âge que j'avais là quand la première fois que je l'ai fait. Et en vrai, ce genre de choses, t'as pas besoin de préparation. Alors, c'est sûr, faut être un minimum sportif. Hein. Si t'arrives pas à monter les 3 étages pour aller chez toi et que tu prends l'ascenseur, ouais, peut-être que tu fasses un peu de sport. Mais tu vois, moi, ça faisait 1 an que j'avais pas trop fait de sport parce que je m'étais éclaté les ligaments croisés, je m'étais fait opérer et vu que je suis zéro en régularité et discipline, bah, j'ai pas fait bien ma rééducation, donc mon genou, il était pas vraiment, tu vois, c'était pas, j'avais pas recover vraiment tous mes muscles, etc. et la tonicité de mon genou, mais au final, j'ai pas eu de soucis. Mais j'ai aucune prépa, tu vois. La seule prépa que tu dois vraiment avoir, c'est t'es prêt à lâcher prise. T'es prêt à vivre le pire avec le sourire. T'es prêt à ne pas te plaindre. Moi, c'est la seule chose que j'ai dit à Jay. Je sais, par contre, si tu viens, man, y a pas, on se plaint pas, tu vois. Y a pas de, tu peux partager que t'as mal, que t'as peur, que t'es triste, t'en peux plus, mais pas en mode victime, pas en mode râleur. En mode, écoute, mec, j'ai envie de te partager là, tu vois, juste à titre, tu sais, d'info, j'ai envie de soutien et de le faire avec, et peur avec fierté, tu vois, et peur en l'assumant, et peur ou pas peur ou soit fatigué de cette façon-là. Parce que c'était un moment important pour moi, je voulais pas me parasiter avec ça. Et donc, je dirais, il n'y a pas de préparation particulière, c'est, tu sais, il y aurait pas de guide, je serais mort. Enfin, tu vois, genre, si pour résumer bêtement, tu vois, pour plein de raisons. Okay. Donc moi dans ces cas-là, j'y vais, je fais confiance au guide, j'écoute ce qu'on me dit. S'il me challenge parce que j'ouvre ma gueule et que je l'échauffe un peu, eh ben je joue le jeu à fond et j'y vais. La seule préparation, c'est voilà, te plains pas, fais, garde le sourire et en fait tu t'aperçois que ton corps, si ta tête elle y va, ton corps il y va en fait. Ouais. C'est la seule prépa que je te dirais.
C'est ça, c'est on parle plus d'une prépa plus mentale que physique finalement sur pour ce genre de
ouais complètement de trek. Complètement. Je pense que c'est pas tant une préparation, c'est un engagement et un accord avec toi-même que tu dois passer, tu vois, un engagement vis-à-vis de toi-même, de dire je vais être comme ça, je vais faire ça, terminé, il y a pas d'autre solution. Et moi c'était je vais pas me plaindre et je vais suivre le truc, tu vois, peu importe les conditions, voilà, terminé. Que j'en chie, que ce soit dur, que machin, je me plaindrai pas et je suivrai. C'est tout. Le reste, c'est superflu.
Top. Et qu'est-ce que vous avez fait durant ces 6 jours? Est-ce que vous avez campé au même endroit ou est-ce que vous avez vraiment fait une traversée? Comment ça s'est passé?
Alors, on a été, c'est un peu backup avec une petite villa avec piscine, on a fait jacuzzi, hammam. Non, on a fait. Faut bien comprendre que donc on est dans la jungle, donc c'était la jungle la vraie. Donc au début on a emprunté des chemins de jungle, puis après c'était des chemins, ce qu'on appelle les chemins un peu d'animaux, qui des passages d'animaux, donc qui tapissent un peu où tu vois des sillons, où tu peux te faufiler un peu dans la jungle. Mais très très vite, on arrive, t'es devant un mur végétal, t'es à Jardiland et y a pas de chemin, tu vois. Et donc t'avances à la machette et c'est et pour répondre à ta question, tous les jours on a changé de lieu. En fait, on faisait marcher. Donc, on marchait, on se levait à 6 heures, un truc comme ça, naturellement. Tac, tac, tu lèves le camp, machin, et tu marches de 8h30 à, en vrai, peut-être 18h30, tu vois, 19h. Tu marches toute la journée, tu fais des pauses, tu grignotes vite fait de temps en temps, Mais l'itinérance, elle est là. En fait, tu marches. Tu vois, c'est et tu marches parce que ça te permet aussi de cueillir certains fruits, des fruits que t'as jamais vus avant et que tu verras jamais ailleurs, qui sont en Amazonie, tu vois, et de récolter certaines choses. Mais en fait, dès que t'arrives, c'est en fait de marcher, c'est juste pour te mettre en jambe, parce qu'après il faut préparer un peu le camp, aller chasser. À chaque fois, on chassait ou on pêchait de nuit. Et t'as toujours pas mangé, tu vois. Donc ce qui nous a permis de tenir aussi longtemps, et je pense que j'arriverai jamais à faire un trek de survie, même les guides, hein, sans cet élément-là, c'est qu'on avait eux ce qu'ils appellent en Colombie du mambé, ce que au Pérou et en Bolivie ils ont, c'est tout simplement c'est la feuille de coca. Sauf que en Colombie c'est du mambé parce qu'elle est broyée, un peu comme si t'as déjà vu du matcha, tu sais, c'est de la poudre verte. Bah, au lieu d'être de la feuille de thé qui est broyée pour le matcha, c'est de la feuille de coca qui est broyée. Et tu la bottes un peu dans le côté de ta gencive et tu le gardes un peu pendant plusieurs heures. Et en fait, avec ta salive, ça va se diffuser tranquille. Ça va pas que ça va te donner la pêche, tu vas pas être sous Red Bull ou machin. Hein. Parce que là, on parle pas de la cocaïne, on parle de la feuille de coca avec toutes ses belles propriétés. Parce que ça c'est très, très bon pour le transit et ça te permet de garder un certain niveau d'énergie quand t'es censé être KO. Ça te permet de pas avoir le sentiment de faim, donc tout ça qui te garde dans un, je suis pas trop fatigué, j'ai pas trop faim, alors que tu devrais crever la dalle et te crever, tu vois. Et ça aide énormément. Et même ça affûte ton mental, t'es focus, t'es plus calme. On avait aussi du râpé pour ceux qui connaissent. Ça c'est la première fois que j'utilisais. Non, deuxième fois, on l'a déjà fait une fois, mais du râpé, c'est du tabac, c'est la feuille de tabac broyé que tu viens un petit morceau d'os que tu te souffles toi-même dans la narine ou quelqu'un peut te le faire. Voilà, ça t'envoie sur les étoiles et c'est ça te nettoie les pensées, quoi. Et si t'étais en train de stresser, ça te calme, ça te pose. Et on avait aussi du mambil qui est un espèce de mélange de plein de choses, tabac, feuilles de coca, plein de trucs. C'est une espèce de pâte noire que tu mets un peu très amère, que tu mets dans la bouche et que tu mets sur tes vêtements et sur tes bottes parce que ça repousse. En tout cas, ça c'est une culture ancestrale, hein, c'est pareil. Ça repousse les serpents, les mauvais esprits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait trois guides et chacun des guides venait d'une ethnie différente. Et du coup, utiliser cette médecine de façon différente aussi.
Ouais, t'as pu tester tout ça, ce qui t'a permis un peu de donner de la force et d'arrêter de penser et de marcher, de continuer à ouvrir le chemin, tout ça pour continuer à avancer finalement.
Ouais, alors le chemin, c'est pas moi qui l'ouvrais. Arrêter de penser. Je dirais que je pensais moins, je pensais mieux. Je pensais sainement, en fait. C'est ça. Mmh. Mais ouais, c'est assez ouf de regarder, en fait, ce que j'avais pas dit, c'est qu'on avait des bottes en caoutchouc, cette fois. Moi, le premier trek, je me suis dit, c'était vraiment la route. C'était, waouh, t'es parti deux potes avec un guide en basket. Mais là, il nous avait dit, et en fait, s'il y a bien un conseil que je peux donner à toute personne qui veut voyager dans le monde, dans des trucs un peu, peut-être hors sentier battu avec des guides, c'est, fais toujours ce que les guides font. Si les guides, ils vont en claquette, en vrai, tu peux y aller en claquette, tu vois. Si, alors après, moi, j'étais en Papouasie, j'étais pieds nus, j'avoue, je l'ai pas fait pieds nus parce que j'ai des pieds d'enfant. Mais, dans le sens où, va au niveau de sécurité que les guides font. Tu vois, si les guides disent, mets des bottes parce qu'il y a des serpents mortels et que les petits, ben, c'est les plus agressifs. Donc, mets des bottes. Tu vois, genre, au début, je suis, ah, bah non, moi, je mets des baskets. Bah non, mais serpents mortels, là, en fait, et c'est les plus agressifs. Donc, ok. Puis il y en a les plus gros, mais bon, c'est vrai que les plus gros, ils attaquent aux genoux, donc bon, c'est pas utile. Mais au moins, tu seras protégé contre les petits. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Et des serpents mortels, on a vu pas mal, hein, pour le coup. Hein.
Justement, je voulais partir un peu sur la partie qu'est-ce que vous chassiez le soir et quelles sont les rencontres un peu que tu fais pas souvent, quoi, qui t'ont le plus marqué.
Alors, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé du poisson, parce que ça, on pêchait. Enfin, ils pêchaient, parce que moi, je mettais un hameçon dans l'eau. Donc voilà, ça c'est pas pêcher, c'est quand t'as à remonter un poisson. On a mangé des vers, on a mangé des fruits, on a mangé ce qui était très bon et ce qui nous a pas mal nourri, c'est de trouver des grosses grenouilles. Non, je te dis, des grenouilles, c'est gros, comme plus gros que des crapauds que tu peux imaginer, tu vois. Et ça, c'est facile à chasser quand tu arrives à les trouver. Et le mec, il est avec la lampe torche, en fait, ça fait, au début je captais pas, le mec à 20 mètres dans la jungle, tu vois rien. Enfin, tu distingues, c'est de nuit, hein. Et à chaque fois on était de nuit, hein, à la lampe torche, et lui en fait, il voyait deux petits points rouges. Et il savait, si c'est dans l'eau, c'est des caïmans, si c'est sur terre, c'est des grenouilles. Et en fait, tu peux les approcher, elles se barrent pas, et tu leur mets un gros coup de machette sur la tête, à plat. Et voilà, ça les tue sur l'instant. Et en fait, c'est un très bon goût de poulet qu'on faisait cuire. Parce que eux, les guides, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils avaient pris avec eux, le guide, il y en avait un guide qui avait une boussole. Et un autre, et non, on avait trois petites gamelles en alu. Parce qu'à un moment, il faut pouvoir faire bouillir de l'eau, faire cuire des choses. Tu vois, ça, si l'autre règle de survie aussi, on avait une grosse gamelle. Sinon, tu peux pas gérer l'eau et tout. C'est, voilà, ça, on avait ça. Même si, personnellement, moi, je buvais l'eau des petits ruisseaux, tu vois. Et ce que je déconseille fortement, parce que bah, les guides le font aussi. Mon pote Jay, lui, je reviendrai après, lui, il a pris cher pendant le trek, mais il s'est pas plaint une seule fois. Mais moi, je buvais l'eau de la rivière, parce qu'en fait, tu vois que c'est le fond de la rivière, c'est du sable, c'est drainé par toutes les magnifiques plantes que tu peux imaginer, c'est de l'eau fucking pure, tu vois. Sauf que, ben, de l'eau, c'est peut-être trop pure et trop propre. Du coup, les gens, ils ont tendance à avoir la courante. Mais avec le Mambé et tout ça, moi j'ai rien eu. Donc dès qu'il y avait un cours d'eau qui était assez, mais de 1 mètre de large, hein, mais que tu vois qui était clair, qui était un peu courant, pas stagnant, ouais. Moi je buvais de l'eau. Mais bon bref, donc on mangeait ça. On a mangé aussi des champignons. Alors là, je vais te dire, t'as un terrasse que parce qu'à un moment je dis, ah regarde, Carlos, c'est les mêmes champignons qu'on a pris. Il me fait, ah, non, ceux-là non, faut pas, tu vas mourir. Ah d'accord, et t'as l'impression que c'est les mêmes quoi. Donc mais des petites soupes de champignons. Donc voilà ce qu'on mangeait. Et évidemment le matin. On avait, ça nous a quand même été très utile. On avait la farine de manioc, farine de yucca comme ils appellent, et on mélangeait avec de l'eau. Ça faisait un peu gonfler le ventre, ça donnait l'impression aussi d'avoir un peu mangé un truc. Et on avait aussi, voilà, on avait la farine de manioc, le sel et aussi un bloc de sucre de canne. C'est les trois trucs qu'on avait pris avec nous. Voilà.
Pour. Ok. Ça, est-ce que il vous est arrivé de manquer de quelque chose? Sur place. Mis à part le confort, parce que c'est pas ce que tu cherchais, mais est-ce que vous avez eu un manque de quelque chose sur place?
Ah bah, il y a un moment, j'ai cru qu'on n'allait pas manger de la journée, tu vois. Et tu sais, quand t'arrives, t'as rien mangé, il était 8h30, hein. 8h fucking et demi, donc tu sais pas quoi faire de ton corps, t'arrives, on dit, oh, t'es arrivé, tu sais pas quoi faire de ton corps. Moi, j'étais là, j'en pouvais plus. J'étais content, j'étais arrivé, j'avais fait mon bonhomme, mais là, il dit, mais là, en fait, maintenant, faut faire le camp. Et tu vois les mecs qui dropent leur sac, pas trois coups de machette, vas-y, rien que ça plante des piquets, ça commence à mettre des feuilles, tac, boum, vas-y, moi je vais aller pêcher, le gars il part, toi t'es là, t'as même pas bougé d'un mètre quoi, tu te sens inutile, tu es là, tu captes la force mentale de ces mecs, des automatismes, et en fait tu dis, parce qu'en fait il y a un truc assez ouf de dire, est-ce qu'on va manger en fait,
ouais.
Est-ce qu'on va manger, c'est, on oublie que en fait dans notre société où tu cliques, tu as, tu t'ouvres un robinet, bon là dans la jungle tu pouvais boire, tu vois, mais c'est l'essentiel en fait. C'est ouf à quel point la société moderne te fait récupérer du temps sur les choses de l'essentiel de la vie normalement, tu vois. S'abriter, boire, manger. Donc je te dirais, on n'a jamais manqué. On a des fois été dans des conditions où là tu te dis, putain mec, j'ai plus de force, faut que je mange, tu vois, j'ai plus de force. C'est pas tant que t'avais tant la sensation de faim, même si tu sais, mon ventre il gargouillait comme jamais. Parce que le Mambé tu sentais que t'avais plus de jus, même avec le Mambé, tu vois. Donc c'est, ouais, c'était ça, je pense, c'est ça.
Bah après, ça m'étonne pas non plus. C'est un peu, tu t'y attendais un petit peu aussi te lancer dans ce genre d'aventure, te dire bon bah c'est, j'y vais avec rien, donc forcément il va falloir que je fasse les choses pour avoir ce qu'il faut à boire, à manger, etc. Donc maintenant. Comme tu disais, il y avait une préparation mentale où tu dois te préparer et pas te plaindre. Puis t'as le côté physique où tu dis, putain, j'ai marché pendant 10 heures aujourd'hui. Et maintenant, bah, va falloir que je donne encore un peu plus d'efforts pour pouvoir me rassasier, pour nourrir avant de me coucher, quoi.
Ouais, et encore une fois, moi, je suivais. Parce qu'il me dit, ah, tu veux me suivre? Bah ouais, mec. J'ai pas de force, mais en vrai, si je te suis pas, même si je sers à rien, je serais doublement coupable de ne servir à rien, tu vois, genre j'aurais même pas fait l'effort de te suivre à essayer de trouver des trucs à manger. Donc il y avait un guide qui était plutôt spécialisé sur l'orientation, tu vois, parce qu'il savait, il connaissait la région, mais enfin c'était plus pour s'orienter, parce qu'en vrai la région, mec, quand t'es en plein milieu de la jungle, la fucking jungle, et qu'il y a des nuages, tu peux déjà pas voir le soleil, c'est super dur de s'orienter, mais avec la boussole, tac tac, il y a pas de carte, enfin. Donc il y en avait un pour ça, un qui était là plus pour trouver à manger, qui était très fort pour ça. Et un abuelo, donc un grand-père qui était là pour plus la protection spirituelle. Et en vrai, big up à lui, tu vois, genre, parce que, bah, en fait, ce qui s'est passé, donc on y croit pas, hein, mais il nous arrivait deux choses incroyables pour moi. La première, c'est que donc t'es en Colombie dans la jungle, il pleut fucking tous les jours. Il y a des averses de bâtard, et c'est comme ça, même ça dure une demi-heure, une heure. Vra. Eh bien, dis-toi, pendant les 6 jours, il a pas plu une seule fois. Allez, 2 fois. Et c'était à chaque fois au moment où, le premier jour, quand on était dans la jungle, on était dans la selva, c'était comme une étuve. Il faisait chaud. La cocotte minute, on n'en pouvait plus. Et là, je me suis dit, wow, on arrive direct dans le game. Et là, boum, il se met à pleuvoir. Mais tu sais, la petite averse rafraîchissante qui te fait du bien, quoi. Et l'autre fois, c'était un moment où on arrive dans un lieu où il y a une espèce de petite cabane. C'est même pas une cabane, hein, que c'est juste un toit, en fait. Il n'y a pas de mur pour t'abriter, qu'il connaissait, qu'on avait réussi à rejoindre. Et là, il se met à pleuvoir, genre, 4 minutes après, quoi. Un mur d'eau. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est quand même ouf de dire que chaque jour, on était genre, allez, une fois, on avait fait un petit toit, quand même, une fois ou deux, on avait fait un toit, mais on pouvait se faire rincer la gueule. Et puis, quand il pleut à 2 heures du mat, t'es censé te reposer parce que t'es KO, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Moi, ça m'était arrivé, nous, le premier trek de survie, il pleuvait toutes les nuits. Et à chaque fois, on était obligé de créer un toit avec, ou des fois, c'était une bâche, on a dormi les trois, les uns contre les autres. Je me souviens, j'ai fini, le lendemain, je suis arrivé, j'avais la tête sur le cul de mon guide. On était tous affalés les uns sur les autres avec la bâche sur nous parce qu'il a plu toute la fucking night, tu vois. Et quand il pleut sur une bâche, ça fait du bruit, tu vois. Mmh. C'est l'enfer. Mais on était tellement crevés que, bah là, non. Pas une fois, il a plu au moment où on était, entre guillemets, vulnérable. Et donc, merci à Abuelo. Et deuxième fois, c'est, au bout du troisième jour, je marche à littéralement 10 centimètres de la tête d'un serpent mortel, tu vois. Et ce qui était le plus dangereux, c'était que j'étais le troisième à passer. Parce qu'on était en file, c'était sur un petit chemin. Et bah, souvent le premier, il réveille le serpent un peu, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième, ça l'énerve un peu. Et le troisième, bah, tu passes dans la merde, tu vois. Et rien, il s'est rien passé. Et le gars, j'entends derrière moi, waouh, qu'est-ce que, oh, Alex! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et genre, moi, il me montre, mon guide, il me fait, t'es sérieux, là? Et là, je vois le serpent mortel qui finalement, c'était en fin de journée, tu vois rien, ça se camoufle avec c'est marron comme la terre dans laquelle tu es. Et là, tu dis dans la jungle, à chaque fois, dès qu'on est discuté et tout dans la jungle, tu vois plus rien. Tu vois plus où tu mets les pieds. T'es ailleurs. Donc, en vrai, j'aurais pu mourir parce que il y a des serpents mortels, en 8 heures, t'es mort. Et autant te dire qu'en 8 heures, tu vas pas dans beaucoup d'endroits par rapport à là où tu es dans la jungle. Et même si t'arrives quelque part, c'est pas comme si t'arrivais dans le centre de secours. Bonjour, on vous attendait, y a pas de problème. Rapatriement, non, t'es là, terminé.
Putain, c'est ouf. C'est ouf. Et justement, je voudrais rebondir là-dessus. Quelles sont les plus belles rencontres que t'as faites durant ces 6 jours?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'es dans la jungle, tu vois quasiment pas d'animaux, en fait. C'est le pire endroit pour voir des animaux, presque.
Mais tu les entends.
Ah, tu les entends, mais en fait, c'est vu que eux t'entendent et te sentent à je sais pas combien parce que tu fais du bruit, eux, ils se cassent en fait. Et en plus, vu que tu vois pas à plus de 3-4 mètres dans la jungle, ça se dissimule super facilement, eux, ils se barrent et tout. Donc oui, on a vu des singes, on a vu des oiseaux, on a vu des serpents malheureusement. Mais tu les vois pas tant que ça. En fait, si tu veux voir des animaux, mieux vaut être sur la rivière parce que tu peux avoir des points d'eau et t'as une vue dégagée. Mieux vaut être sur... tu vois des territoires comme ça peut être même le Pantanal ou des zones immergées, en fait c'est plus simple. Dans la jungle tu vois moins de choses, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est juste de, bah il y a un moment t'es là, c'est con hein, tu, il y a un trou dans la canopée, tu te poses et là t'entends des haras, donc c'est les perroquets rouges qui ouais, survolent et qui te passent au-dessus. Là tu fais, wow, c'est pas une pub là, en fait c'est des vrais, c'est des choses comme ça qui sont, et j'aime ce côté très fugace, tu sais, ce côté où c'est pas devant toi pour toi, en fait c'est juste eux, ils font leur life, t'es là, tu l'as vu, tu t'es démerdé pour fermer ta bouche et pas te faire remarquer et qui passe là, c'est ça qui est beau, tu vois.
C'est incroyable. Et tu t'es arrêté là sur l'anecdote de ton pote Jella, qu'est-ce qui raconte, nous un peu les aventures ou mésaventures qui s'est passé durant ce trek.
Putain, mais Jay, en plus on commence et avant de rentrer dans la jungle, ils nous font une petite comme une demande aux esprits de nous protéger, tu vois, une mini micro cérémonie où chacun c'est à ce moment-là on a fait la première prise de prendre du mambé, du mambil et du râpé, et le râpé ça envoie du steak, hein. En vrai c'est pas fort, en fait ça te fait pas du tout. C'est pas une plante qui va t'envoyer sur Pluton ou que tu vas te faire hallucinogène. Pas du tout. Rien à voir avec ça. C'est juste que ça pique le cerveau, quoi. Tu le fous dans la narine, dans les sinus. Ouah, t'es là, wouh! Alors moi, je prends pas de drogue ou de coke, tout ça. Donc, je sais pas ce que ça fait, mais ça arrive. Enfin, tu sais, t'es là, tu vois. Et lui, Jay prend ça. Moi, le Mambé, j'en faisais 3, 4, 5 fois par jour. Dès que mon guide, il en prenait, il me fait, Alex, t'en veux? Ouais, j'en veux. Ouais, bien sûr. Et Jay, il était, lui, il partait sur Pluton. On le voyait. Il était là, il était à deux doigts de vomir à chaque fois. Il prenait un parpaing, quoi. Donc, je dis, oula, lui, à mon avis, il va découvrir la vraie vie, tu vois. On marche, on commence à marcher. Là, comme je t'ai dit, la première journée, c'était tough, tu vois. En plus, on marche, les étuves et trucs. À un moment, on fait une pause, on dit, c'est dur en vrai, physiquement. Et Jess, c'est un mec qui fait 1m90, 85-90, athlétique, fait du sport. Enfin, il y va, tu vois. Et là, je me dis, moi, ça pique un peu, mais je crois que lui, il prend encore plus cher, tu vois. Puis la chaleur, moi, je la supporte bien, lui, un peu moins. C'est un mec d'Alsace, tu vois, c'est moins son délire. Et puis à un moment, on s'aperçoit, je demande à un guide qui s'occupe de l'orientation, qui s'appelait aussi Alex d'ailleurs. Je dis, Alex, on est perdu là, ou? Il me fait, ouais. Je dis, d'accord, ok. Depuis combien de temps? Une heure environ. D'accord, super. Bon, ok, cool, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fuis. Et on se perd une heure, deux heures, trois heures. Et en fait, il voulait essayer de récupérer en diagonale une espèce de chemin qu'il connaissait. Mais fucking shit, le chemin, quand on l'a récupéré, le chemin, il est large, il fait 50 cm de large. Et jamais tu le vois de loin, t'es obligé de une fois que t'es dessus, tu dis, voilà, c'est le chemin, quoi. Et si tu cherches une aiguille dans une botte de fucking foin, c'est même un champ, tu vois, directement. Et en fait, du coup, au lieu d'arriver à 5h30, parce qu'il fait nuit à 6h, 6h30, tu vois. Et au lieu d'arriver à 5h30, à 5h30, on fait une pause. 6h, il fait commence à faire nuit. Et on est, je dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il me fait, parce qu'on a, on avait retrouvé le chemin. Et mon guide, il fait, en vrai, il y a deux solutions, tu vois. Soit on pose le camp ici, parce que là, c'est plutôt pas mal pour poser, tu vois, c'est calme, il y a une petite aplanie. Je dis, si je comprends bien, là, avec ce ruisseau qu'on va pêcher, il y a littéralement 20 cm de fond, tu vois. Donc l'eau est propre et tout. Il me fait, c'est vrai qu'on va pas pouvoir. Je dis, attends, on va pas. C'est con, on va pas passer la première nuit direct, premier jour, on va taper dans les réserves de farine pour à peu près se remplir le ventre, mais on va rien manger. Enfin, c'est quoi la deuxième solution? Il dit, c'est marcher de nuit et 3 heures, encore à 3 heures d'à peu près du lieu où j'imagine. Et on y va, tu vois. Et là, je suis ok. Je regarde mon pote Jay, il se lève. Je suis, putain, lui, j'ai des terres, tu vois. Il prend cher, mais il dit rien. Et il se lève, il me regarde. Il me dit, faut que j'aille vomir. J'ai un quoi? Et le mec, il fait 4 pas et il gerbe sa race, tu vois. Vraiment, il gerbe ses tripes. Et là, je suis, ok, je l'avais pas vu venir, tu vois. Je fais, ça va et tout, tu vois. C'est, je suis pas rien, tête qui tourne. Peut-être un des fruits qu'on avait mangé, lui, était peut-être pas un peu avarié, son fruit. Je crois qu'il avait peut-être essayé de boire aussi un peu, tu vois, l'eau des rivières, enfin, des petits ruisseaux. Paf. Et là, mon guide, il me regarde des gros yeux, on va peut-être rester là. Je dis, écoute, Jay, pose-toi tranquille. Respire. Il y a pas d'ego ici. Il y a pas de vas-y on y va. C'est toi qui décides. C'est toi qui dis. Tu veux y aller ou tu veux pas y aller. Et lui, tu sais, c'est un peu un soldat. Je me pose un peu et tout. Il me dit c'est bon, on marche. Je fais mec, c'est 3 heures de marche. Je sais pas, on fait pas le tour du pâté de maison. Là, c'est 3 heures. Lampe torche. T'es dans la jungle. Et c'est le soir que les trucs un peu chiants qui peuvent te buter, ça sort, tu vois. Ouais, vas-y, c'est bon. Parce que tu vois, quand t'es un peu vomi, t'es tripes et que t'es pas bien, t'es pas ultra affûté et focus. Ok. C'est bon, je suis chaud. T'es sûr? Ouais, ok. Je dis au guide, j'explique, parce que je parle mieux espagnol que lui. Je dis, écoute, il me fait, vous êtes sûr et tout. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'à ce moment-là, on en discutait après avec les guides. Les guides, c'était notre premier jour, donc ils voulaient pas faire les mecs genre non, fais ça. Ils voulaient sentir qu'il y avait un échange avec nous, qu'ils étaient à notre écoute, etc. Et nous, c'était l'inverse. On voulait se dire, il faut pas qu'on montre. Que au guide qu'on est des branle-couilles et qu'on a rien dans le sac, tu vois. Donc tu vois, on essaie de montrer que t'inquiète les gars, on assure. Donc on y va. Jay se lève, il fait 2 pas et il regerbe sa race, mais vénère. Et là mon guide il me fait attends, parce que là on commence à switcher là d'ambiance, tu vois. Là on commence à se dire le gars est vraiment pas bien. Potentiellement on peut marcher, mais si demain ça va pas mieux, en fait faut l'extraire, tu vois. Parce que une journée de plus, là il y a rien. Il y a fucking rien, tu vois. Donc s'il lui arrive un truc, déshydratation, truc, machin, enfin ça peut aller très très vite, tu vois, dans la jungle. Faut repartir sur la ville, Laetitia, sinon on va trouver une lancha, sinon le gars est pas bien. Ok. On fait quand même les 3 heures de marche. Donc on marche les 3 heures à lampe torche. Et putain, on marche les trucs, ça monte, ça descend, c'est comme des petites collines dans la jungle là où c'est, tu vois. Là on était. On arrive et là c'est comme je te dis. 20h30, t'as toujours rien mangé. merci le Mambé pour à peu près faire semblant que t'es pas au bout de ta life. Et là, on avait, les guides avaient pris un hamac de, au cas où. Donc, on pose le hamac, Jay se met dedans pour reprendre ses forces, qu'en vrai, là, il fallait qu'il reprenne ses forces, tu vois. Et c'est là où moi, tu vois, je me suis dit, ok, je suis là. Donc, moi, je suis pas dans le hamac, je vais mieux, mais j'ai, mon cerveau, il se passe rien dans ma tête, quoi. Mon corps, il est plus trop, tu vois. Et là, il y a Carlos, le mec qui gérait la, trouver à manger. Bon, Alex, tu veux venir? T'es là, tac, tac, il avait déjà coupé du bois, à moitié fait le feu, en l'espace de 47 secondes. Toi, tu, ouais, ok, d'accord, d'accord. Ben, je viens. Et tu le suis pas, pas, tu sais pas où tu vas, t'es là, tu dis. Et en plus, lui, il voulait tester, tu vois. Tac, boum, bam. Donc, il va comme un furet. Tu dis, mais gars, j'ai même pas le temps de voir où je mets mes yeux. S'il y a un serpent, je meurs, tu vois. Il me canne, le serpent. Tu. Donc, il commence à trouver un crapaud, deux grosses grenouilles, troisième grosse grenouille. Bam, boum, bam. Ok, vas-y, tiens, porte. Tac, boum, ok, d'accord. Et après, donc, tu reviens au bout d'une heure et demie. Parce que c'est pas non plus, t'es pas au supermarché, hein, tu vas pas dans les rayons. Hein. Tu reviens, il est 10 heures. Il faut allumer le feu, faut dépecer les trucs, faut le mettre. Donc tu manges, il est 11 heures. T'en peux plus. Et tu dors. Mais je peux te dire, finalement, dormir sur des feuilles avec 3 feuilles par au-dessus de toi pour te protéger au cas où de la pluie, hôtel 5 étoiles. Tu dors comme une demi-heure. Franchement, il y a pas de bam, terminé, bonsoir. Parce qu'en plus, c'est une zone où il y a beaucoup de jaguars et de pumas. Donc normalement, dans l'idée, t'es censé être un peu sur le qui-vive. Parce que justement, tu peux te faire becter, quoi. C'est pendant le sommeil, le machin, il voit ça, tu bouges pas. Là, pour le coup, c'est buffet à volonté. Donc, bah moi, autant te dire que là, il y a un t'abandonne. Tu dis, oh bon, bah tant pis, hein, il me fait bouffer. Je suis pas le plus gros, c'est pas moi qui me ferais bouffer peut-être en premier. Je suis peut-être le corps le plus faible, c'est peut-être moi qui va attaquer en premier, en vrai. Mais ouais, voilà, ça a été le premier jour de Jay. Et le lendemain, Jay se réveille, je le regarde. Et il me refait, non, mais c'est cool, je me sens mieux. Je vois, il se lève. Je me dis, putain, tu sais, il fait 3 pas et il vomit pas. Je dis, oh putain, c'est bon. Putain, c'est bon. Et là-dessus, il est reparti, ça allait beaucoup mieux. Et il a pas abandonné. Il a pas abandonné. Il lui est arrivé d'autres trucs après, mais il a pas abandonné. Il s'est jamais plaint. Respect à lui.
Putain, c'est ouf. Non, c'est, tu sens que c'est, et ça, c'était la première journée, quoi. Tu sens que les 6 jours vont être longs, quoi.
C'était la première journée, effectivement.
Ah, c'est incroyable. Et justement, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu as pu trouver des réponses à ce que tu souhaitais chercher quand tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me retrouver moi-même, j'ai envie de voir si j'ai encore, si je peux encore faire ça. Qu'est-ce que tu cherchais? Est-ce que tu as trouvé des réponses à ce que tu cherchais après ce trek?
Ouais, complètement. Je dirais que c'était au bout du troisième jour et demi, où j'ai retrouvé ce que j'étais parti chercher, qui était finalement un état d'esprit que j'avais perdu depuis quelques années, tu sais, où quand t'as une fatigue mentale, un épuisement global, tu deviens stressé, t'es plus sensible à négativement à ton environnement. Donc, je me plaignais, je râlais, je voyais le côté négatif plutôt que le positif des choses. Donc, moi, je voulais me débarrasser de ça. Et j'ai eu ces clics, tu vois, ces fameux clics. Et ces fameux clics que j'ai eu, si je dois le résumer, c'est quand tu cherches pas à être sec, quand tu sais pertinemment que tu vas être mouillé, quand tu cherches pas à être confort, quand tu sais pertinemment que tu vas être dans les pires conditions, tout à coup, en fait, tu lâches complètement prise sur ce que tu veux, tu acceptes la situation telle qu'elle est, et tout à coup, un truc qui paraissait insupportable et chiant, ça devient un moment, c'est pas grave, en fait. Je dis pas que c'est pas dur. Je dis pas que c'est simple, mais c'est juste tu regardes ton pote et tout à coup t'en rigoles et que c'est comme c'est en fait. Et ça a vraiment ce côté genre tu te réancres dans l'instant présent et tu cherches pas à obtenir, tu cherches juste à faire et c'est ça que je m'étais aperçu. Les 2 dernières années où j'étais malheureux, je faisais les choses pour obtenir un chiffre d'affaires, je sais pas des récompenses, une situation. Et j'ai capté que à chaque fois que j'avais été bulletproof dans ma vie, que j'avais été le plus heureux, c'est que je faisais les choses par le simple plaisir de faire. Parce que ça m'amusait, parce que j'avais envie de voir ce que ça faisait. Pas pour avoir la récompense ou l'émotion que ça me procurait. Non, j'ai envie de le faire par le plaisir de savoir ce qui va se passer. Sans attendre un truc précis. Et à chaque fois que je suis comme ça, je prends les choses comme elles venaient. Et en fait, plus rien peut te... Et chaque chose t'apporte. Et c'est plus grave. C'est comme ça. Et c'est pas que t'es résigné. C'est l'inverse, t'embrasses toutes les situations. Et en fait, je les prenais avec calme et joie Et à aucun moment je dis que ça a été simple et facile. On avait donc c'était psychologiquement et bien vraiment, tu dis tu lâches prise, t'en peux plus, mais c'est comme ça, tu vois. Et puis tu regardes ton pote, tu rigoles. Et donc ouais, j'ai réussi à retrouver ça. Et mais en vrai, le plus dur c'est pas d'avoir retrouvé ça, c'est de le maintenir, de garder, de le conserver. Parce que si t'arrives à arrêter de fumer, parce que t'es dans la campagne, t'es bien avec toi-même. Quand tu retournes en ville et que t'es avec tes potes fumeurs, c'est là où c'est challengeant. Tu vois, c'est un peu ça le vrai challenge.
Et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui alors pour garder un peu ce retour aux sources, contact avec la nature, tout ça?
J'ai repris bien la méditation, tout simplement. Ouais. Déjà le matin quand je me lève, ça m'aide personnellement. Je suis moins dur avec moi-même, tu vois. Déjà, parce que je suis le roi de l'autoflagellation, je trouve ça super intéressant de se challenger. Mais moi, j'arrivais à des points où finalement, tu vois, autant je vais toujours voir les situations de la vie à moitié sur le côté positif, autant quand sur ma prestation entre guillemets, je vais toujours me dire putain, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu être meilleur, etc. Et je vais voir le point négatif du truc, l'aspect positif, ce qui manque. Donc, je dirais, je suis retourné dans le jeu. Je fais plus les choses pour avoir, je les fais parce que ça me fait marrer, tu vois. Tu fais parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et pas, je veux ça, donc je fais ça, et c'est peut-être, je vais à l'encontre de ce qui se dit, tu vois, genre avoir un objectif précis, tu sais, d'obtenir, avoir un chiffre, des trucs. En fait, pour moi, l'objectif précis, c'est, je veux faire ce truc. C'est je dis, si tu prends un voyage, je veux aller en Algérie, découvrir le sud de l'Algérie dans le désert en février 2024 pendant 3 semaines avec des potes. Ça, c'est un objectif précis, tu vois, et je le visualise, etc. Pour moi, un mauvais objectif aujourd'hui pour moi, c'est de se dire je voudrais faire des super vidéos qui buzzent et arriver à ce que ça ressemble à telle chose parce que j'ai ça en tête et j'aimerais vraiment pouvoir rencontrer des Touaregs et que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça, pour moi, c'est un objectif précis qui est toxique parce que ce sera jamais comme tu voudras, t'auras jamais les résultats, ce sera toujours différent. Donc je te dirais loi d'attraction super, objectif précis super, mais qui est pas dans l'objectif d'obtenir, qui est l'objectif de comment tu te débrouilles pour arriver à faire les choses pour que ça te fasse kiffer. Et finalement à chaque fois moi ma réussite quand j'ai eu chaque fois que j'ai gagné le plus d'argent que j'aurais imaginé, j'ai le plus kiffé dans ma vie, c'est quand j'étais focalisé pas du tout là-dessus, mais sur le jeu, sur le plaisir, sur l'amusement, sur l'instant. Et c'est dur en fait de se défocaliser là-dessus parce que la société te pousse en permanence à ça, à ton plaisir personnel, à obtenir, à l'argent. Donc c'est pas facile.
Tout à fait d'accord avec toi et je comprends parfaitement ton point de vue et je pense qu'on se reconnaît tous un peu comme ça aussi. Donc on est un peu poussé à la consommation et le fait de faire des breaks et de pouvoir retrouver un peu, je sais pas moi, rien qu'une tout plaquer et se faire une petite randonnée en pleine nature juste pour penser à rien, méditer, etc. C'est des petites choses qui semblent toutes bêtes, mais qui des fois te font un bien de ouf sans forcément que tu t'en rendes compte, mais intérieurement il se passe plein de choses, quoi. Je valide parfaitement. J'avais une dernière question pour toi, Alex.
Vas-y.
Quels sont tes futurs projets?
C'est une excellente idée. Une excellente question. À titre personnel, j'ai envie de faire différentes cérémonies de plantes médicinales, que ce soit les champignons psilocybes, hein, ce qu'on dit vulgairement les champignons hallucinogènes, et aussi de l'ayahuasca. Mais je veux pas le faire en mode gringo, tu sais, un peu à la chaîne. J'attendais vraiment que ça vienne à moi en m'y renseignant et d'avoir un truc assez sain. Et j'ai trouvé, en plus, la Colombie, c'est le foyer et la demeure de beaucoup de guérisseurs. Pas de chaman, parce que c'est assez vulgaire finalement de dire chaman. C'est le mot un peu colon. Donc je vais organiser ça tranquillou. Et le dernier, c'est très long terme, arriver à créer ma propre réserve naturelle privée. Et il y a des chances que ça se fasse aussi en Colombie. Voilà.
Génial.
Le but, c'est de protéger. Un espace. Donc au contraire, soit de le revaloriser parce que c'est une ancienne finca, de replanter des arbres, etc. Soit de protéger. Donc et je veux justement que de réattirer après naturellement la faune. Mais le but, c'est pas de faire un refuge. Le but, c'est pas de faire un zoo. Hein. C'est vraiment de laisser circuler et que la faune vienne sur ce territoire parce qu'elle saura qu'il n'y aura pas de problème pour elle.
Génial. Super. Écoute, Alex, m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi, de rencontrer, même si hein, on sent que t'as coupé un peu la beubarde.
Bien sûr. Ah oui, ce que j'ai dit, ouais, j'ai fait la connerie hier de me raser. C'était pas arrivé depuis 10 ans. Et regarde, on voit bien sur la vidéo que j'ai un cul sur le menton. Voilà, tête de cul. Regarde, hop, mais je ne referai pas, je sais. Grosse erreur. I know it. Mais bon, bah, super. Vaut mieux agir et tirer les bonnes leçons que pas agir du tout. C'est un peu comme ça que je l'ai dit.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Alex. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Très bonne continuation pour la suite. Et puis, bah écoute, on se tient au jus.
Merci pour l'invite, Jérémy. Et force à toi pour le podcast. Ciao.
Super, salut.
Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et de les inscrire sur ce podcast. N'oubliez pas également de vous abonner, vous serez directement informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et pour me montrer votre soutien, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, suivi d'un petit commentaire. Je vous en remercie du fond du cœur. Gobayava est mon partenaire pour cette saison 4 et avec le code promo Odyssée, ODY2S2E, bénéficiez d'une réduction de 5% lors de la souscription de votre contrat d'assurance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.